Bon dimanche, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, réglez vos montres, il est 13h. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans À toi les étoiles, votre rendez-vous mensuel avec l'espace et les étoiles, diffusé chaque troisième dimanche du mois, de 13h à 14h sur IDFM Radio. C'est déjà la 228e émission de cette belle aventure radiophonique qui vous emmène chaque mois plus haut, plus loin, à la découverte de l'univers et de celles et ceux qui le font vivre. À toi les étoiles, c'est une émission placée sous le double patronage de passionnés de l'espace, sa marraine, Danielle Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, et son parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et comme toujours, notre slogan est là, pour vous rappeler notre mission, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant et ô combien d'actualité. 50 ans de vol habité entre Russes et Américains, une coopération qui résiste au temps. Depuis la mission historique Apollo-Soyouz en 1975, en pleine guerre froide, jusqu'à l'actuelle Station Spatiale Internationale, en passant par le programme Atlantis-Mir dans les années 90, les deux grandes puissances spatiales ont su, contre vents et marées, travailler ensemble dans l'espace, même lorsque les tensions sur Terre semblent les opposer. Et pour évoquer ce demi-siècle de collaboration, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et, vous le connaissez bien, parrain d'À toi les étoiles. Jean-François Pellerin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette émission et pour parler de ce cinquantenaire de vol habité entre Russes et Américains. Alors pour cela, il faut revenir 50 ans en arrière et même encore plus, notamment avec l'émission Apollo qui se termine. Et il y a eu ensuite une mission Apollo-Soyouz.
Alors, donc, décembre 72, vous avez Apollo 17, hein, avec le géologue Schmidt. Donc, c'est la dernière mission. Et bien évidemment, au niveau du Congrès, on ne va pas aller plus loin. Il y avait Apollo 18, 19 et 20 qui étaient prévus. Donc, on va s'orienter dans une petite phase de transition. On va utiliser une Saturne 5 pour envoyer une station orbitale, le Skylab. Et pendant 3 vols, on va faire 3 missions, 28 jours, 56 jours et 84 jours, en 73-74. Mais avant, dès les années 70, on souhaite faire une mission de rencontre au sommet entre Apollo et un vaisseau Soyouz. Alors, ça sera une mission exceptionnelle qui prend la suite, je devrais le dire, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Mais en septembre 63, soit deux mois avant la mort de John Kennedy, il avait lancé une proposition à Khrouchtchev devant l'Assemblée Générale de l'ONU pour pouvoir faire de la coopération et intégrer les Russes dans une coopération au sommet pour aller sur la Lune. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé après, donc Khrouchtchev est parti et puis il y a eu l'assassinat. Donc il n'y en a pas beaucoup qui le savent et ça démontre une chose, c'est que très tôt, dès le début des années 60, Américains et Russes étaient partants pour coopérer dans l'espace. Donc Apollo-Soyouz, dès le début des années 70, on va mettre en place un protocole de coopération pour préparer Apollo-Soyouz en 75.
Qu'est-ce que ça représente, Jean-François Pellerin, cette mission Apollo-Soyouz dans le contexte de la guerre froide ?
J'aurais envie de dire, c'est peut-être un peu l'armistice entre soviétiques et américains après presque 20 ans de guerre entre guillemets entre soviétiques et américains pour l'exploration spatiale. Puis en même temps, c'est peut-être un petit clin d'œil à Kennedy Khrouchtchev 10 ans avant, 12 ans avant, qui avait déjà imaginé une coopération spatiale dans l'espace. Alors le décollage donc décolle deux engins, un véhicule Apollo et il y a un véhicule Soyouz qui s'appelle Soyouz 19. Alors le Apollo, pour la petite histoire, il sera appelé Apollo 18. Hein. Le fameux vol qui a été annulé, hein, 18, 19, 20 avait été annulé. Donc il s'appelle Apollo 18, Soyouz 19. et vont décoller le 15 juillet. Nous sommes le 15 juin, on se projette un mois plus tard, imaginez, alors, le 15 juillet 1975. Moi, petit clin d'œil, j'étais à Ris-Orangis, j'habitais Ris-Orangis, et au moment où il y a eu la retransmission en direct que j'ai vue de mes propres yeux, arrivait la correspondante anglaise de l'une de mes sœurs. Donc je m'en souviens très très bien. Alors il faudra, en gros, deux jours de vol. Alors il y a une petite précision à faire. Apollo, quand il décolle, il emmène, c'est pas une pièce androgyne de rendez-vous, mais c'est un genre de petit tunnel qui va permettre à Apollo et à Soyouz de s'amarrer. Hein. Donc, particularité. Alors, les Russes, côté russe, il y a Alexei Leonov, 41 ans. Et pour l'histoire, Leonov, quelques années plus tôt, il devait être à la place, à bord de Soyouz 11, où il y a eu 3 morts. Vous voyez, ça corrobore ce que j'avais déjà expliqué sur les sorties extravéhiculaires. Quand je disais Leonov, c'est quelqu'un qui a failli mourir plusieurs fois, parce que en 71, s'il avait été à bord, il serait mort. Il serait mort comme tous les astronautes, Volkov, Patsayev et Dobrovolsky, les derniers morts il y a 54 ans. Donc il échappe à ça, comme il a échappé à bien d'autres choses. Grâce à quoi? Grâce à la maladie. Donc on a fait un échange d'équipage. Donc Leonov, quand elle arrive pour Apollo Soyouz, il peut dire qu'il y a 4 ans, il a échappé belle. Voilà, il y avait Valérie Kubasov aussi, 40 ans. Donc ils étaient deux côté russe, et ils étaient beaucoup plus nombreux côté américain. Thomas Stafford, 44 ans, ancien d'Apollo 10 notamment. Vance Brown, 44 ans, pilote du module. Je crois qu'il est encore vivant, il doit avoir bien 92 ou 93 ans. Et Donald Slayton, 51 ans, qui en fait était le chef des astronautes. Il était du projet Mercury, mais il n'a pas pu voler à cause des problèmes, je crois, d'oreilles. Et c'est un peu son cadeau final à 51 ans. On lui offre enfin un vol dans l'espace avec Apollo Soyouz.
Jean-François Pellerin, je rappelle que vous êtes journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles. Nous parlons des 50 ans de vol habité entre Russes et Américains. Jean-François Pellerin, il a fallu un sacré défi technique pour amarrer Apollo et Soyouz ensemble, parce que c'est pas le même système d'amarrage, je suppose.
Ah oui, oui, non, ils n'avaient pas le même système d'amarrage, hein, ça c'est clair que... On avait fait des rendez-vous comme Soyouz 4 et 5, mais c'était de l'amarrage soviétique, donc on pouvait le faire. Tandis que là, il faut vraiment un module d'amarrage de forme cylindrique. Le module a une longueur de 3,15 m. Voilà. Entre Apollo et Soyouz, vous avez plus de 3 mètres. Il y a un diamètre pas très grand, mais plus grand qu'un diamètre Soyouz de SAS, 1,40 m. Et le tout faisait 2 tonnes. Donc c'est ce qui a été rajouté. Sur Apollo. Soyouz, on n'a pas eu besoin de rajouter quelque chose sur le vaisseau Soyouz, et ils ont pu s'encastrer, puis mécaniquement se raccrocher. Ça sera au bout du deuxième jour. Il y avait une chose aussi différente, c'est que les pressurisations à bord, côté Soyouz et côté Apollo, n'étaient pas identiques. Donc il a fallu s'adapter complètement et mettre en équilibre toute la pressurisation via le tunnel pour pouvoir vraiment passer d'un système américain à un système russe. On n'avait jamais fait.
Et on a cette photo, Jean-François Pellerin, de cette poignée de main dans l'espace entre Russes et Américains.
Oui, oui, bien sûr. C'est le clou un peu de la mission. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a un peu l'impression d'une armistice entre deux États qui se sont fait la guerre dans l'espace et qui vont se rencontrer. Et vous savez où a lieu cette fameuse poignée? C'est au-dessus de la France.
Ah, ben, d'accord.
C'est tout un symbole, hein.
En effet.
Donc, et deux des astronautes vont pouvoir donc se serrer la main. Et ils vont rester amarrés, je crois, quasiment 2 jours. On a constitué une petite station modulaire américano-soviétique.
Est-ce qu'on peut dire, Jean-François Pellerin, que cette collaboration était les prémices de la future station spatiale internationale ?
Ou tout simplement les débuts qu'on aura 20 ans plus tard qu'Apollo Soyuz, où on fait les premiers amarrages avec pièces androgynes. La navette spatiale Atlantis en 1995 vient se rattacher il y a pile poil 30 ans, c'était au mois de juin de l'année 95. Donc on peut dire que oui, c'est les prémices de ce qui se fait en orbite là depuis déjà un bon moment entre Américains et Russes. Puisqu'aujourd'hui, à chaque fois qu'un Soyuz décolle, il y a deux Russes et il y a toujours un Américain. Et de l'autre côté, côté Américain, il y a toujours des Américains. Quelquefois, il y a des astronautes comme la mission en cours avec un Indien, Polonais, Hongrois, mais il y a toujours un Russe. Et ça, c'est ce que vous mettez dans le titre, c'est que la coopération américano-russe, elle tient bon, même en condition où il y a la guerre en Ukraine.
Justement, on y vient sur cette collaboration, Jean-François Pellerin. Comment cette collaboration continue aujourd'hui? Comment elle perdure?
Alors concrètement, aujourd'hui, à bord de la station internationale, vous avez toujours la présence d'Américains et toujours la présence de Russes. Et vous avez des phases un peu, je dirais, tournantes. Quelquefois, le commandant de bord de toute la station, il est russe. Il doit être capable de parler avec le centre de Houston. Il parle avec le TSUP, le centre de contrôle russe. Et d'autres fois, c'est comme l'astronaute qu'on a dit bloqué l'autre jour, qui ne l'était pas, elle était redevenue pour la deuxième fois commandant de bord en tant qu'américaine, commandant de bord de la station. Donc elle dirige l'équipage SpaceX et elle dirige l'équipage Soyuz, ce qui fait environ 7 personnes.
Jean-François Pellerin, dans cette collaboration américano-russe, on a pu voir d'ailleurs des Russes décoller depuis les États-Unis et inversement des Américains décoller depuis la Russie.
Oui, oui, mais moi je pense que, vous savez, ça va plus loin que ça. Regardez, il y avait eu un vol en 88, Titov et Manarov, un an dans l'espace. Et les 30 derniers jours, il y avait Jean-Luc Chrétien avec eux, et ils sont revenus tous les trois. Et il s'est avéré qu'il s'est créé des liens d'amitié tellement forts que Jean-Luc Chrétien, avec Vladimir Titov, c'est des très bons copains. On est dans une relation d'une force amicale entre un Français et un Russe, comme ça peut se faire entre Américains et Russes, bien sûr, et ils partent en vacances ensemble. Donc, la cosmonaute qui était soi-disant bloquée, Sunita Williams, quand elle arrive, elle est embrassée très chaleureusement par Oleg Kononenko, qui a passé 3 ans dans l'espace au total, et ils se connaissent. Beaucoup d'astronautes américains connaissent des homologues soviétiques et russes, donc comment ça s'organise tout simplement, ils se créent une cohésion entre personnes, donc on crée des équipages, et pour l'instant tout fonctionne bien, et c'est vrai, ça couronne vraiment ce qu'on peut dire 50 ans de vol américano-russe.
On marque à présent une pause musicale dans cette 228e émission de À toi les étoiles, l'émission qui prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Aujourd'hui, on revient sur 50 ans de coopération en vol habité entre Russes et Américains, un partenariat hors du commun malgré les tensions terrestres. Notre invité Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain de l'émission. Voici maintenant Atem Jazzy avec Little Man, un titre que certains reconnaîtront et qui fera peut-être sourire certains auditeurs attentifs que je salue. Restez avec nous, juste après, on continue à explorer les grandes étapes de cette coopération historique et on vous parlera aussi du Salon du Bourget 2025 avec ses perspectives pour le spatial. A tout de suite dans À toi les étoiles.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Allez, on descend des tables maintenant, le morceau est terminé. Vous êtes toujours à l'écoute de À toi les étoiles, l'émission qui prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace sur IDFM Radio, que vous écoutez sur les 98 FM en Ile-de-France, le DAB+, IDFM Radio ou sur l'application IDFM Radio sur votre smartphone ou encore sur le site www.idfm98.fr. C'est la 228e édition de ce rendez-vous mensuel consacré à l'astronomie et au spatial, à retrouver chaque troisième dimanche du mois de 13h à 14h. Aujourd'hui, nous explorons 50 ans de vol habité entre Russes et Américains avec notre invité Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain de l'émission. Jean-François Pellerin, après Apollo Soyouz, il y a eu d'autres collaborations à bord de vaisseaux spatiaux avant la Station Spatiale Internationale.
Alors, on va regarder juste une époque. Il y avait le projet de Ronald Reagan de faire une station Freedom. Et en fin de compte, ça va déboucher sur un accord en 93 qui fera qu'on a la Station Spatiale Internationale qui arrive avec deux gros partenaires, américains et russes. La station va démarrer en 98. Et juste avant, pour préparer tout ça, il y a le programme Shuttle Mir, donc américano-russe, où on va avoir une dizaine de navettes spatiales qui vont aller jusqu'à la station Mir. On aura même des équipages qui décollent en Soyouz d'un Américain qui rejoint Mir avec des Russes. On aura Shannon Lucide, grand-mère de l'espace, en 96. Et on va même vivre des déboires en 97. Vous avez un équipage américano-russe et pas de chance, ils ont un incendie plus une collision d'un véhicule Progress de ravitaillement, donc dépressurisation, ils vont se retrouver dans le noir. Alors c'est Tsivliev, Lazutkin et Michael Fall pour l'Américain. Et il est persuadé, quand les alarmes déclenchent, on demande à l'équipage de rester à bord, parce qu'il faut réparer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans un contexte d'une culture différente. La culture du russe, c'est d'aller jusqu'au bout, ne jamais abandonner sa mission. C'est ce que font les Russes. Et par peur, Michael Fall, il est parti dans le Soyouz, se réfugier dans le Soyouz. Donc vous voyez, il y a même eu des déboires entre Américains et Russes dans l'espace. Et ils ont continué quand même à coopérer. Et bon, ils ont sauvé la mission. Mais les Russes sont capables d'aller très très loin. Tandis que l'Américain, et il y a un livre qui raconte ça, sur ce qui s'est passé à bord de Mir en 97, dans un contexte américano-russe.
Jean-François Pellerin, une collaboration entre les États-Unis et l'Ukraine, c'est envisageable ?
Oh, c'est compliqué, hein, oui. L'Ukraine. On a quand même eu des événements, j'en avais parlé dans l'émission, concernant la guerre en Ukraine et les conséquences sur l'espace. On a quand même eu des choses sur la station internationale, pas très propre, entre guillemets, à savoir qu'ils voulaient revendiquer la Crimée. Alors, ils avaient une combinaison aux couleurs ukrainiennes. Ils ont même mis à l'extérieur un drapeau. Ils ont montré un accord Donbass-Crimée avec une certaine fierté. Ils étaient à bord. Donc, on peut dire que la relation américano-russe a été compliquée. Il y a eu des grands exploits, des moments de brouille, comme un couple. Hein. Mais il n'y a jamais eu de divorce depuis 50 ans. Durant toutes ces années-là, beaucoup d'astronautes américains ont décollé en Soyouz de Baïkonour. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, en gros, après 6 mois d'espace? Mais ils redescendaient en navette spatiale, hein, au Kennedy Space Center ou en Californie. Donc vous voyez, il y a eu une grande période Shuttle Mir. Et après, ça a été ISS, avec la coopération, bien évidemment, Soyouz et SpaceX, le Dragon. Et ça continue. Et ce qu'on peut attendre comme bonne nouvelle, c'est que les États-Unis veulent préparer un voyage vers Mars. Et très peu de temps après cette annonce, il y a Poutine qui a demandé s'il était possible un jour de rencontrer Elon Musk pour en parler. Et un jour, ça remettrait complètement en force la puissance spatiale russe. Parce que n'oublions pas quand même, c'est que depuis qu'ils font la guerre en Ukraine, ça freine leur projet spatial, les Russes. Ils devaient avoir un engin successeur du Soyouz, pour l'instant on voit pas trop la couleur, ils devaient évoluer avec leur fusée. La seule chose qu'ils ont pu faire, c'est construire une nouvelle base pour les Russes en territoire russe, parce qu'ils dépendent du Kazakhstan avec Baïkonour. Donc tout ça, c'est pas facile, mais il y a des gestes forts qui viennent d'avoir lieu. Je vais vous en citer un. Le patron de Roscosmos, l'équivalent de la NASA côté russe, l'agence spatiale russe, vous savez qui ils ont mis comme directeur général adjoint ? Sergueï Trikaïev, le premier russe qui a volé sur la navette spatiale, qui parle américain, qui a vécu des années aux États-Unis. Son job, c'est la coopération internationale espace, notamment russe-américain. J'ai l'impression que c'est un geste fort qui montre que les Russes veulent reprendre une coopération très forte, comme à l'époque d'Apollo-Soyouz. Donc je pense que c'est un tournant de l'histoire. Donc au lieu d'un divorce, il n'y a pas de divorce, il y a eu des hauts et des bas. Mais depuis 50 ans, on voit une certaine cohésion américano-russe dans l'espace.
Jean-François Pellerin est notre invité dans cette émission À toi les étoiles sur IDFM Radio. Il est journaliste scientifique et parrain de l'émission À toi les étoiles, où tous les troisièmes dimanches de chaque mois, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Nous parlons de 50 ans de collaboration entre Russes et Américains, et avec ce que vous venez de nous dire, Jean-François Pellerin, eh bien c'est très encourageant pour la suite, et j'ai envie de dire, pourvu que ça dure.
Oui, surtout que Donald Trump et Musk sont toujours bien reçus au Moyen-Orient, et il s'avère qu'un pays, les Émirats Arabes Unis, ont un robot autour de Mars. Et ils sont passionnés par l'exploration de Mars. Ils ont même des projets de colonies martiennes. Donc on est en train de rentrer, 50 ans après Apollo-Soyouz, je ne sais pas si on peut parler de poignée de main, mais plutôt d'un regroupement important de ces deux grandes nations. Alors j'ai oublié de dire une chose. Je trouve que c'est symbolique. C'était 40 ans après Apollo-Soyouz. On a eu un vol spatial en tandem, uniquement avec un Russe et un Américain. Objectif, rester un an dans la station internationale. Kornienko et l'autre, c'est Kelly. Vous savez, c'est le fameux jumeau de l'espace avec son frère. Bon, ils vont rester près d'un an. Il y a même des très beaux films qui racontent toutes ces choses-là. Et là, on peut dire que c'est vraiment une cohésion totale d'équipage russo-américain, et ils sont tous les deux en tandem, et ce qui est fort, c'est qu'ils ont échangé les cultures médicales entre Moscou, Houston. Aujourd'hui, j'ai même appris par l'astronaute Michel Tonini, maintenant, sauf les Chinois, tous les astronautes de la planète ont des normes équivalentes dans les entraînements au niveau médical, en rééducation quand ils reviennent sur Terre. Tout ça, c'est des normes internationales que tous les astronautes du monde ont, à savoir aller en Allemagne se former au Japon, se former au Canada, faire des missions hors du temps sous la Terre, avec une genre de petit sous-marin, station spatiale au fond de l'eau, près de la Californie. Donc ils font exactement les mêmes entraînements. Et quand on dit échanger, juste avant ce vol d'un an, qui était en 2015, ils avaient échangé des données entre médecins russes et médecins américains. Ça montre quand même une chose, c'est la force de la relation. Même s'il y a des embrouilles, il y a une force dans cette collaboration. Regardez, à Pâques, un astronaute est redescendu, Donald Petit, il avait 70 ans. Mais quand il arrive à Houston, il va démarrer sa rééducation pendant plusieurs semaines, un peu comme Pesquet, mais ils ont des connaissances, les médecins russes, même sur Terre, quand il faut récupérer et extraire de la capsule, à tout moment, on voit des médecins sauveteurs russes qui viennent donner un coup de main à des médecins américains qui sont là. Donc j'ai jamais vu une force aussi solide entre ces deux nations. malgré tout ce qu'on peut vivre. Regardez Apollo, on s'est posé sur la Lune, et il y avait la guerre du Vietnam en même temps. Et là, coopération, et en même temps, vous avez la guerre au Moyen-Orient, vous avez la guerre en Ukraine, etc.
On va faire une nouvelle pause musicale dans cette émission À toi les étoiles sur IDFM Radio, votre rendez-vous mensuel pour explorer l'univers tous les troisièmes dimanches du mois, 13h-14h. Nous parlons de 50 ans de coopération en vol habité entre Russes et Américains avec notre invité Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles. Et pendant que les étoiles continuent de briller, on s'offre un moment musical avec un trio de choc, Clean Bandit, Anne-Marie et David Guetta avec le titre Cry Baby. Mais surtout, restez bien avec nous, puisque dans un instant, on continuera de parler de cette coopération américano-russe, et puis on évoquera aussi le salon du Bourget et les grandes tendances du spatial à venir. Alors ne touchez à rien, on revient juste après ça. Ici, c'est IDFM Radio. So you can keep on crying, baby. So you can keep on crying, baby.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Vous êtes toujours à bord d'À toi les étoiles, l'émission qui prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace sur IDFM Radio. Nous sommes ensemble pour cette 228e édition et aujourd'hui nous parlons de 50 ans de coopération en vol habité entre Russes et Américains en compagnie de Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain de l'émission À toi les étoiles. Jean-François Pellerin, juste avant cette pause musicale, vous avez parlé de Kelly et de Kornienko, premier tandem américain-russe en 2015 à avoir passé un an dans l'espace, et ils en ont fait une web-série, hein, c'est ce que vous me disiez.
Oui, on peut le retrouver sur Internet, c'est numéroté de 1 à 12, ça fait plus de 2 heures de film, et ça a été filmé pour montrer la coopération américano-russe, et pour montrer la vie d'un vol de 1 an dans l'espace de longue durée de l'intérieur. Il filme les deux filles de Kelly, il filme la femme de Kornienko, on voit leurs angoisses quand il arrive à terre. La femme de Kornienko, elle est en pleurs, elle a les larmes au moment de l'impact où on nous garantit qu'ils sont vivants, ils sont posés au sol. C'est One Year in Space et on retrouve des épisodes, on peut tout reconstruire pour voir tout le film. Ça démarre à l'entraînement et ça finit à la rééducation. Et on voit tout de l'intérieur. Et c'est impressionnant parce que c'est vraiment des gens qui sont des professionnels. Je sais pas si vous avez vu la fin de la petite vidéo où Kelly, il avait dit à sa femme un bon repas, une bière, et je saute dans la piscine. Et on le voit, hop, il s'écroule et il nage dans la piscine un peu comme s'il avait envie de retrouver un peu la pesanteur.
Jean-François Pellerin, je vous propose que nous écoutions un extrait du 11e épisode. Au moment où ils reviennent sur Terre, le documentaire est en anglais, donc je vais traduire en direct. Les forces de récupération se déplacent avec les hélicoptères russes M-18 ainsi que les véhicules tout-terrain. Tout le personnel de récupération de la NASA et de Roscosmos converge là-bas au Kazakhstan. Et on vient d'avoir la confirmation que la capsule a atterri avec l'équipage qui est de retour un an plus tard sur la planète Terre. Et là, tout le monde applaudit. Et on voit la femme du cosmonaute qui dit « Bienvenue à la maison ». Et les gens qui nous disent félicitations, merci. Comme vous le dites, Jean-François Pellerin, on voit dans cet épisode la femme de Kornienko qui fond en larmes, c'est des larmes de joie bien sûr, de voir son mari revenir sur Terre sain et sauf après avoir passé un an dans l'espace. Cette web-série s'appelle One Year in Space, un an dans l'espace. C'est en anglais, mais vous pouvez mettre les sous-titres français grâce à YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder cette web-série. Jean-François Pellerin, avant de parler du salon du Bourget, on peut dire qu'en 50 ans, il y a eu beaucoup d'Américains qui ont volé avec des Russes.
Il y a eu beaucoup de vols, c'est vrai. à l'époque de Shuttle Mir. Hein. Il y a eu notamment Sergueï Krikaïev, dont je vous parlais, hein, qui a volé, je crois même, deux fois avec les Américains. Il a vécu longtemps aux États-Unis, parle américain, il connaît la culture américaine. Il y a eu Strekalov, il y a eu Norman Sagar, il y a eu Shannon Lucid, la grand-mère de l'espace, sur Mir de Baïkonour. Il redescend tranquillement en navette spatiale. Donc ça a été toute une période, on peut dire qu'il y a eu trois, quatre grandes périodes. Et comme vous dites dans le titre de l'émission, que ça résiste, effectivement, ça résiste.
Moi, je verrais bien, Jean-François Pellerin, une collaboration américano-russe pour aller sur la planète Mars.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr, pour que les Russes en parlent et pour qu'ils aient mis Sergueï Krikaïev, qui a volé sur la navette spatiale, qui parle américain, comme adjoint du directeur général de l'agence spatiale russe pour la coopération internationale. C'est un geste fort, c'est un geste qui, on va en connaître la teneur, on va voir ce qui va se passer dans les 10 ans, 20 ans qui viennent.
On va clôturer ce chapitre sur les 50 ans de collaboration russe et américaine, Jean-François Pellerin, et on va parler maintenant d'un événement qui va arriver prochainement à la fin du mois.
Oui, oui, alors le Salon international de l'aéronautique et de l'espace, je ne sais plus quel est son numéro, vous savez que le Salon français de l'air et de l'espace, il existe depuis 1909, l'année de Blériot. C'était au Grand Palais. Donc c'est certainement le plus vieux salon du monde en matière d'aéronautique et d'astronautique. Mais il y a quand même un point qui démontre qu'il y a une relation qui n'est pas si bonne que ça avec l'Europe, avec la France. C'est que depuis des années, la présence de SpaceX, d'Elon Musk, n'existe pas du tout. On n'a jamais vu une fusée Falcon. On n'a jamais vu, alors que Gagarine, en 67, on avait la fusée du vrai Gagarine. Hein. Donc Elon Musk, Richard Branson, Jeff Bezos ne sont pas au salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se déplacer, parce qu'il y a plein de choses à voir. Donc ça démarre demain, 16 juin, et ça finit le 22. Alors, tous les jours, c'est pas ouvert au public, hein, s'il y en a dans les clubs d'astronomie, etc. D'ailleurs, il y a des séances de planétarium qui vont tourner tous les jours. Donc, c'est le week-end. C'est à la fin, au week-end, que le grand public a accès au salon.
21 et 22.
Il y aura bien sûr des démonstrations en vol, il y a beaucoup de choses de prévues. Moi, le seul petit regret que j'ai, c'est que au dernier où je suis allé, j'avais un peu l'impression qu'on avait quand même beaucoup de choses sur l'avion écologique, l'avion propre, les nouveaux carburants. Bon, en recherche-développement, c'est très bien ces études-là. Mais quand j'y vais, j'ai la nostalgie d'il y a 50 ans des grands salons du Bourget. L'arrivée de l'Antonov 225 ukrainien avec la navette spatiale Buran, qui était venu. La navette spatiale Enterprise sur Boeing 747, elle a même fait un tour de Roland-Garros et tout le monde avait levé les yeux pour applaudir. Et on avait des choses grandioses, on avait la station orbitale Mir, grandeur nature, en maquette. On prenait un genre d'escalier, on montait à bord de la station et on descendait au bout de la station Mir. Donc on avait des choses, ça ne veut pas dire que les salons sont moins bien. Mais moi, j'ai une nostalgie de ces salons-là, parce que c'était grandiose, c'était des choses géantes. On approchait d'un matériel spatial, mais on aura des grandes choses. Je ne sais pas si elle est prévue, la grande maquette géante d'Ariane 6. On pourra revenir sur Ariane 6, hein, oui. Grand exploit. On a déjà fait deux tirs. On est passé enfin dans la nouvelle génération Ariane, avec succès au niveau commercial pour le deuxième vol. On aura toutes ces choses-là. On aura la présence de Sophie Adno, que j'avais rencontrée il n'y a pas très longtemps. C'est la première Française sur ISS avec un vaisseau de SpaceX qui démarre pour l'espace autour du février, mars, avril, là, au début de 2026. Alors il faut pas trop entendre, parce que j'aime pas faire de la politique, quand on parle de divorce, Elon Musk, Donald Trump, il n'y a pas de divorce, puisque au premier mandat, il avait déjà été conseillé, puis il n'avait plus envie de l'être, donc il est parti. Là, ils sont pas partis en mauvais termes, il lui fait un super cadeau d'une clé en or de la Maison Blanche dans un coffret très select. Donc, n'oublions jamais, j'entends jamais de médias le dire, jamais un média le dit. Elon Musk a un syndrome de l'autisme Asperger. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir des réactions un peu violentes sur Twitter et tout. C'est très dur pour lui, depuis 40 ans, de gérer ce syndrome-là.
Ah, c'est un autiste, d'accord.
Hein, donc personne ne le dit. C'est, il a un QI de 155, Elon Musk. Hein, Einstein, c'était 160. Donc, vous voyez, donc pour lui, c'est très dur. Il voulait mettre Jared Isaacman à la tête de la NASA, et comme par hasard, dans la dernière semaine, 6 mois de recrutement, il a passé toutes les étapes chez les démocrates, et on lui fait comprendre qu'il a donné de l'argent aux démocrates. Mais on peut très bien donner de l'argent à des démocrates, il est très compétent. John Kennedy, il était démocrate, c'est lui qui a lancé le programme Apollo. Moi, j'aimerais qu'on revienne à un discours de bipartisans, que ce soit démocrate ou républicain, il travaille pour l'Amérique avec les coopérations internationales, mais pas jouer cette guéguerre. C'est pas une vraie guerre, puisque tous les deux, ils ont besoin chacun de l'autre. Hein.
On est bien d'accord, Jean-François Pellerin. Je rappelle que vous êtes journaliste scientifique et parrain de l'émission À toi les étoiles. Et avant de conclure cette émission et de revenir pour quelques derniers mots sur le Salon du Bourget 2025, je vous propose une dernière escale musicale tout en douceur et en émotion. Voici une collaboration aussi originale qu'élégante. Stromae, Pomme et Coldplay réunis sur le titre « Ma meilleure ennemie ». Un moment suspendu, mais ne partez pas trop loin. Juste après, on se retrouve pour clore cette émission et évoquer les dernières perspectives du Salon du Bourget. A tout de suite sur IDFM Radio.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée.
IDFM, 98FM.
Vous êtes toujours à l'écoute d'À toi les étoiles sur IDFM Radio pour cette 228e édition consacrée à 50 ans de coopération en vol habité entre Russes et Américains. Notre invité aujourd'hui, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain de l'émission À toi les étoiles. Jean-François Pellerin, juste avant cette pause musicale, vous parliez de cette mésentente entre Elon Musk et Donald Trump, qui n'est pas vraiment le cas, mais en fait, il faut mieux, dans ces cas-là, rester apolitique.
Oui, il faut être apolitique, parce que ces gens-là ont fait des choses grandioses. Quand vous voyez Musk qui fait décoller des fusées de 5000 tonnes, des fusées équivalentes aux fusées N1 soviétiques d'il y a 50 ans, qui ont tout explosé, les quatre vols. Jamais plus de 2 minutes de vol, alors que là, vous avez une fusée qui tient 1 heure en vol. Plusieurs minutes avec une synchro de tous les moteurs, comme la N1 qui avait une trentaine de moteurs. Il y a eu des problèmes de canalisation de carburant, il y a eu des fuites très graves sur la fusée russe. Donc quelqu'un qui a une société privée qui est capable de faire ce que voulaient faire les Russes il y a 50 ans, moi je dis c'est grandiose. Vous imaginez, à bord d'une fusée géante Starship, de voir un équipage américano-russe ? Ce serait dingue, mais pourquoi pas ?
Pourquoi pas, oui, tout à fait. Parce que lorsqu'on entend aux infos qu'une fusée a été lancée, les gens répondent « Ah oui, et alors ?» Mais ils prennent ça de manière banale. Mais en fait, c'est pas banal d'envoyer une fusée dans l'espace.
Non, c'est pas banal. Je vous assure, et les gens s'en rendent pas compte, parce que ce qui est assez fou, c'est que Elon Musk teste devant les caméras tout en temps réel. Il échange des moteurs pour en mettre des plus vieux. Ce qu'il a fait la dernière fois, il a complètement changé le premier étage. C'est un étage qui avait fonctionné sur une des premières fusées, et dès le décollage, tout fonctionne nominalement. Donc ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de maîtriser, c'est des choses que des grands comme les soviétiques ont tenté de faire, mais ce fut un échec total. Donc, synchroniser, allumer 30 moteurs en synchro, sans fuite de carburant, sans vibration entre les moteurs, comme la fusée russe qui avait eu plein de problèmes, mais lui, il maîtrise ça. Hein. Mais il y en a encore pour 2-3 ans pour la mettre au point. Mais tous les gens, quand ils voient une explosion au bout d'une heure et tout, il n'y en a aucun qui est capable de faire l'analyse, de dire « oui, mais il est capable de récupérer un étage ». Vous imaginez, la Saturne 5, on récupère le premier étage, on n'a jamais fait ça. Donc au bout d'un moment, il y a une genre de banalisation. Et les gens ne se rendent pas compte, et quand des astronautes reviennent après un an d'espace, ils sont debout en quelques heures, mais c'est une prouesse physique, physiologique et mentale. C'est quelque chose de très très difficile. Regardez, quand il y a eu l'histoire des astronautes bloqués dans l'espace, avec Stéphane Sébille, on s'est amusé à remonter un peu dans le temps, 54 ans de station orbitale. Et on remarque qu'il n'y a jamais eu d'astronaute bloqué. Ça n'existe pas. Il y a tellement d'allers-retours, de capsules, de cargos. S'il avait fallu descendre en urgence, on aurait mis des sacs de couchage derrière la rangée des quatre astronautes avec SpaceX. Et ils auraient pu se mettre debout, se mettre assis, mais on aurait pu ramener 6 personnes. S'il y a eu une catastrophe, si c'était très grave, regardez, juste quelques jours après, qu'est-ce qu'on voit à Baïkonour, un équipage qui décolle, et 3 heures après, ils sont sur la station. Donc si on devait sauver un équipage, on a des moyens solides, et il y a des traités d'échange entre les puissances spatiales, de libre-échange et de secours entre les astronautes. Vous savez, par exemple, moi j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, il y a un statut... au niveau diplomatique spécial pour l'astronaute. C'est plus l'époque de Krikalev qui redescend avec son passeport alors qu'il redescend dans un pays indépendant. Là, on est obligé de les accueillir. Ils ne peuvent pas être faits prisonniers. Tu vois, on retrouve tout ça dans le droit spatial, les dernières choses qui sont sorties, qui montrent qu'ils ont un statut diplomatique de protection. On ne peut pas les faire prisonniers. On ne peut pas avoir une atteinte à leur vie. On est obligé, si un pays, il y a une capsule Soyuz par exemple qui retombe et à cause d'un problème de précision d'atterrissage, ils sont obligés de se poser sur un autre pays, ils doivent laisser rentrer le Soyuz, ils doivent le poser et ils ont pleine liberté de récupérer les astronautes, mais on ne doit pas attenter à leur vie, on ne peut pas les faire prisonniers. Voilà, c'est des choses que je ne connaissais pas, que j'ai appris au moment des astronautes bloqués, qui en fin de compte n'ont jamais été bloqués. On leur a donné une super promo pour Sunita Williams. Elle est devenue commandant de la station internationale, donc une charge de travail énorme, et elle a intégré un groupe pour 7 mois comme expérimentatrice. Le collègue, pareil, il s'est mis en condition pour un vol de longue durée, mais ils connaissent les vols de longue durée, ils sont chevronnés. Vous savez, la petite astuce de l'astronaute Butch Wilmer, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une force, c'est qu'il est pratiquant de la religion protestante. Et son très bon copain, c'est un pasteur protestant. Et de temps en temps, en Zoom, ils avaient des liaisons, et tous les soirs, ils lisaient des versets de la Bible. Voilà, c'est un peu comme Apollo 8, où ils lisaient des versets sur la création, la naissance du monde. Il s'est rapproché comme ça, et ce qu'on oublie de dire, Sunita Williams, elle a une double nationalité, par ses grands-parents, elle est indienne. Donc les Indiens ont une force, c'est dans la méditation, Donc ils ont tenu 9 mois et demi, au lieu de 8 jours ou 15 jours de vol, parce que c'est des professionnels aguerris, pilotes d'essai, et on leur a donné une proposition. Donc à partir du moment où ils étaient dans l'équipage, juste à côté, ils avaient leur chaloupe, leur vaisseau de SpaceX, ils pouvaient rentrer quand ils voulaient. Donc l'histoire d'astronautes bloqués en orbite sur les stations, ça n'existe pas. Le seul cas où on pourrait dire que des astronautes sont bloqués, c'est sur la Lune. Imaginez au redécollage Armstrong et Aldrin, le moteur ne s'allume pas. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas d'autre solution. Donc ils restent bloqués sur le sol de la Lune. Là, c'est des astronautes bloqués.
Merci pour tous ces éclairages, Jean-François Pellerin. Et j'insiste sur le fait que lancer une fusée ce n'est pas banal, et je m'adresse surtout aux jeunes qui, pour eux, voilà, c'est ouais, on lance une fusée, et alors, et même les moins jeunes, ceux qui n'ont pas de connaissances en astronomie, astronautique, mais non, c'est une prouesse, et je compte sur les exposants.
Oui, oui, il y a plein de secteurs jeunesse qui sont là sur place, notamment dans le hall du Concorde. Oui, oui, il y a tout ce qu'il faut pour les jeunes, hein, pas de problème.
Et qu'on fasse passer le message aux jeunes, non, le décollage d'une fusée, ce n'est pas banal. C'est jamais banal.
Non, non, jamais.
Jean-François Pellerin, un dernier mot pour conclure cette émission à toi les étoiles.
Moi, je dirais qu'il se prépare des belles années dans l'espace. Et je crois que c'est un symbole de paix de pouvoir travailler depuis 3 ans de guerre en Ukraine, de voir Américains et Russes qui s'embrassent avec beaucoup de chaleur, d'amitié, quand il y a les passations d'équipage ou quand ils arrivent par le SAS. Ça montre que cette relation depuis 50 ans, elle est vraiment très forte.
Et voilà, c'est la fin de cette 228e édition d'À toi les étoiles, l'émission qui prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace sur IDFM Radio. Aujourd'hui, nous avons remonté 50 ans d'histoire spatiale entre Russes et Américains, de la mission Apollo-Soyouz en 1975 jusqu'à la Station Spatiale Internationale, en passant par Atlantis Mir et la mission d'un an de Kelly et Kornienko. Un grand merci à Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain de cette émission, pour ses éclairages passionnants. Au revoir Jean-François Pellerin.
Merci à vous, au revoir.
Je vous rappelle que vous pouvez retrouver À toi les étoiles sur le 98 FM en Ile-de-France, en DAB+, IDFM Radio ou via l'appli IDFM Radio ou encore sur internet www.idfm98. Tous les troisièmes dimanches de chaque mois, de 13h à 14h. Et avant de nous quitter, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que À toi les étoiles est reconduite pour la saison 2025-2026. On repart ensemble pour une nouvelle année de découvertes stellaires. La moins bonne, c'est que je ne sais pas encore s'il y aura une formule estivale en juillet et en août. Mais si c'est le cas, on se retrouvera avec plaisir les dimanches 20 juillet et 17 août. Sinon, rendez-vous le 21 septembre, ce sera une formule de l'été, ça c'est sûr, toujours à 13h et toujours sur IDFM Radio. En attendant, portez-vous bien, continuez de lever les yeux vers les étoiles et surtout, restez curieux. A très bientôt sur IDFM Radio et merci pour votre fidélité. Explorez les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck, le troisième dimanche, de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.